Avant l'orage, une émission féministe de découverte littéraire. Et pas que. Alors cette semaine, on fait revivre Avant l'orage. J'ai fait une invitation aux personnes qui font vivre la bibliothèque Les Lunes, Les Lins, une bibliothèque engagée dans les luttes féministes, décoloniales, queer, à Aubenas. Et je suis avec Clara. Bonjour Clara.
Salut.
Aujourd'hui, tu vas nous parler d'un coup de cœur que tu as eu d'un livre qui est disponible à l'emprunt à la bibliothèque Les Lunes, Les Lins. Pour commencer, qu'est-ce qui t'a donné envie de t'investir dans cette bibli ?
Eh bien, écoute, plusieurs choses. Déjà, quand j'ai découvert la version, on va dire, installée de la bibli, et non plus itinérante seulement, à la cantine populaire à Aubenas, j'ai vu que tous les ouvrages que je voulais acheter à la librairie du tiers-temps étaient là-bas. Et du coup, je me suis dit que ça me ferait peut-être faire des économies. Et puis, j'aimais beaucoup son mode d'organisation en autogestion, le fait aussi que voilà, la sélection soit vraiment très pointue sur des sujets queer féministe, décoloniaux, etc. Et avec une idée du féminisme intersectionnel. Et puis après, très rapidement, j'ai eu envie de m'investir parce que du coup, moi, j'anime des ateliers d'écriture et aussi je faisais partie d'un club de lecture quand j'étais à Montpellier qui s'appelait Les Écrits du Queeristan. Et du coup, voilà, j'ai eu envie de faire partie de cette team adorable et incroyable. Donc voilà.
Est-ce que tu peux te présenter, toi, Clara, en quelques mots ?
Ouais, bah moi du coup je suis Clara, ça fait 2 ans que je suis en Ardèche et voilà, j'ai été cueillie par ce département incroyable et cette région. Et moi je suis du coup à la fois artiste et à la fois médiatrice culturelle. Donc l'idée c'est que ben, les choses qui me passionnent, j'essaye de les faire accéder au plus grand nombre et à des publics d'horizons larges. Voilà, après je fais du coup sur Aubenas pas mal de choses en tant que bénévole, donc sur la bibli, sur la cantine populaire où je propose pas mal d'événements, notamment les scènes ouvertes de Gabi que j'ai reprises il y a quelques mois, et puis des vides dressings solidaires pour le planning familial, pour Queer Sevenol, voilà, des petites choses comme ça, les ateliers d'écriture voilà, dont on reparlera, et voilà, et j'aime vraiment beaucoup cet endroit et les gens qui y sont, et j'ai envie de faire plein de choses, plein de création et collective.
J'ai envie de faire découvrir ce qui te passionne un peu à tout le monde. Mmh. C'est aussi ce qui fait que tu es là aujourd'hui, peut-être ?
Oui, parce que en fait, je sais qu'il y a un autre livre, justement, de cette autrice Aurélie Olivier, qui est dans les propositions pour cette émission, qui est aussi un de nos coups de cœur de la bibli. Et moi, il y avait donc cet ouvrage qui m'avait complètement frappée à un moment où j'en avais fortement besoin, puisque du coup je suis aussi poète-poétesse et j'écris, et des fois je passe plus de temps à procrastiner qu'à écrire, et j'ai trouvé cet ouvrage, je pense, à la base dans tu vois, ce genre de compte Instagram militant qui font des propositions de lecture et qui filent pas mal de bonnes refs, et du coup j'ai regardé direct si je pouvais l'acheter, et dans ma petite librairie que j'adorais à Montpellier, Fière de l'être, qui est très engagée aussi, bah, il y avait cet ouvrage. Et donc, c'est « Lettres aux jeunes poétesses », du coup.
On arrête de faire durer le suspense.
Ouais, ça y est, je balance. Et c'est du coup un ouvrage un peu mystérieux qui est tout noir, écrit en jaune, « Lettres aux jeunes poétesses », et qui se présente en fait comme un recueil de lettres qui a été initié et recueillie par Aurélie Olivier, la fameuse autrice dont je parlais, et ça réunit 21 et 21 autrices, poètes et poétesses. Ça va de Chloé Delhomme à Rebecca Chaillon, passant par Milady Renoir, Yoko Sekiguchi, ou encore Edith Azam, Wanessa Unyonsi ou RERQ. Voilà, il y en a 21, donc je ne vais pas peut-être toutes les citer. Mais c'est un recueil en fait qui est arrivé Au printemps 2020, en fait, l'autrice explique qu'elle avait reçu une invitation du service de la parole du Centre Pompidou pour imaginer au sein du Festival Extra un week-end dédié aux parleuses. Et il faut savoir que la collection, en fait, des éditions de l'Arche, qui a donc édité cet ouvrage, c'est des écrits pour la parole. Et c'est donc une collection initiée par Claire Stavot, parce qu'on parle pas souvent des éditrices, mais elles font un taf aussi ultra important. C'est une collection qui est héritée du spoken word. Donc c'est vraiment de la littérature politique où la parole, elle est prise et ses mots à dire engagent par le corps et activent une puissante oralité mythique. Donc on est vraiment dans des arts de la... du spoken word, et donc c'est un langage vraiment direct qui moi me parle beaucoup de par cette puissance, et aussi parce que moi-même je fais de la poésie sonore, donc du spoken word. Et en fait, ce qui est incroyable, c'est que justement Aurélie Olivier avait déjà travaillé pour le Centre Pompidou, et elle avait observé en regardant les archives d'un autre festival de poésie directe, Polyphonix, que en fait en 1982 il y avait déjà une poétesse, Jacqueline Dauriac, qui avait fait une performance pour expliquer en fait qu'il y avait si peu de... Il n'y avait que 5 femmes sur 35 artistes invitées. Elle avait essayé de dénoncer ça à travers une performance où elle invitait 2 femmes sur scène et elle proposait de, en fait, juste les faire venir pour qu'elles sourient et de proposer de partager son cachet. Et donc l'idée, en fait, c'est une démarche d'Aurélie de vraiment dénoncer ce sexisme dans la littérature, dans la poésie et puis dans ce genre d'institutions culturelles qui ont fait perdurer aussi une sélection vraiment infime d'artistes femmes ou minorités de genre. Et donc elle a lancé une invitation à 9 poétesses à la base en leur demandant: qu'auriez-vous envie d'écrire à une jeune poétesse, un jeune poète? Qu'auriez-vous aimé qu'on vous écrive lorsque vous étiez vous-même un ou une jeune poétesse? Et donc elle lance cette invitation, et puis l'éditrice dont je vous ai parlé, elle trouve ça tellement génial qu'elle lui dit: viens, on en fait un livre. Et finalement, on a grandi à 21 personnes et pas seulement 9. Et puis vous verrez que l'ouvrage est une invitation à ce que ça grandisse encore et encore, jusqu'à toucher le plus de poètes et poétesses possible, jusqu'à nous toucher nous-mêmes, quoi. Donc c'est une parole très directe et c'est pour ça que je voulais le présenter aujourd'hui.
Quand tu dis que c'est lié au spoken word, tu veux dire que c'est des lettres qui sont faites aussi pour être dites,
Carrément.
Pour être clamées un peu.
Carrément, c'est vraiment un langage de la poésie contemporaine qui est fait pour être déclamé, qui est fait pour être incarné avec le corps. Et donc c'est une poésie très viscérale. Parfois, elle prend des formes, un petit peu comme de la poésie plus classique, surréaliste. Parfois, elle prend une forme d'un texte d'un seul bloc, mais elle nécessite une mise en oralité qui est vraiment essentielle dans ce genre de texte. Donc, c'est assez organique et viscéral.
Alors, moi, j'avais une proposition. C'était un peu ce que j'ai découvert à travers les arpentages. C'était quand on découvrait des livres à plusieurs. Et on avait une sorte de fil où on se disait notre coup de cœur par rapport au livre, notre caillou dans la chaussure, ce qui nous gêne, ce qui nous dérange, ou alors ce qu'on ne comprend pas, enfin quelque chose qui gratte un peu. Et puis un écho avec notre propre vie. Et c'est ça que je te propose de faire. Est-ce que tu veux nous dire ton coup de cœur, quelque chose qui t'a marqué par rapport à ce livre, un moment marquant?
Carrément, je vais pas préciser un truc, c'est pas forcément hyper important, mais L'être jeune poétesse, c'est une référence à L'être un jeune poète de Rainer Maria Rilke, et bref, vous l'aurez compris d'une manière plus féministe et queer. Mais justement, moi, ce qui m'a marqué chez ces autrices, certaines et certains que je connaissais pas forcément, c'est que tous ont vraiment une franchise assez frappante, et du coup ça nous donne une force, ça nous transmet une force qui est assez incroyable. Je pense par exemple à une autrice qui nous parle de sa procrastination, qui commence son texte en disant j'ai procrastiné, je m'en suis fait une montagne. Et donc cette autrice, c'est Sonia Chiambretto, qui justement a donc écrit une des lettres de cet ouvrage. Et puis je pense aussi aussi à Chloé Delhomme qui commence cet ouvrage avec cette première lettre où elle commence de but en blanc en disant « Cher toi, à en croire les sondages en France, une personne sur trois veut écrire un livre et 3% ont sauté le pas. 3% ça fait plus d'un million de manuscrits. Chaque année dans ce pays se publie autour de 68 000 livres. En moyenne, les Françaises lisent 22 livres par an, les Français un peu moins. » Et puis elle poursuit que pour écrire de la fiction, Virginia Woolf disait qu'il fallait une chambre à soi, un minimum d'autonomie financière, attendu que les auteurs touchent 10% de leurs ventes, ne comptent pas trop sur elle pour payer ton loyer. Bien sûr, le fait qu'on n'y fasse pas carrière, et surtout que dans ce milieu, les femmes minorités de genre ne sont que 30% au grand maximum. Donc en gros, elle balance des chiffres, elle balance des chiffres aussi du marché, de l'édition... et pas forcément des informations sur la littérature en soi, parce qu'elle nous raconte tout simplement que le mot précarité, c'est le prix à payer, le prix de la liberté de notre propre écriture. Et du coup, voilà, elle nous raconte aussi cette écriture par nécessité, et pas cette écriture juste pour plaire et pour écrire des belles lettres et des belles choses. Donc, j'ai trouvé ça très fort et très frappant. Après, il y a aussi la forme chorale de ce récit, qui du coup s'articule à travers des lettres qui pourtant ne se sont pas lues entre elles, qui ont été réceptionnées de manière individuelle et qui pourtant forment une espèce d'énorme récit choral avec cette adresse directe, comme si c'était des grandes sœurs, grands frères, des grandes adelphes qui nous donnaient des conseils. Et puis ça met aussi un esprit vraiment de team building, puisqu'il y en a beaucoup aussi qui nous invitent à leur écrire, à les contredire, à dire aussi « je suis un poète, une poétesse » à figurer dans ses prochaines lettres. Et voilà, ça m'a permis aussi, et je pense à d'autres autrices, de se reconnecter à l'écriture viscérale de l'adolescence. Et ça, c'est quelque chose qui m'a aussi beaucoup marquée. Il y a beaucoup d'autrices qui parlent de cette période de l'adolescence, et notamment quand tu as 14 ans et que ton écriture, elle est viscérale et qu'elle est vraiment nécessaire et vitale, quand beaucoup de choses se jouent déjà. Donc, une manière de nous inviter à revenir à cette vision authentique de soi qu'on avait à 14 ans, cette rage de vivre comme ça. Et donc, tu vois, je te lis un petit bout parce que je ne veux pas juste choisir un seul extrait. Tu vois, il y a une des autoristes qui dit « Quand tu me parlais, tu étais si passionnante, si poétique que moi-même déjà je rentrais en écriture. Tu m'as dit aussi « J'écrivais dans un cahier journal, j'avais toujours cette idée de ne pas laisser ma vie à l'oubli. Tu m'as raconté « J'avais 14 ans ». On regardait un dessin animé et à la fin de chaque épisode, le personnage, une jeune fille, racontait dans un cahier ce qui s'était passé dans sa journée. En bas de la page, elle rajoutait le même commentaire « Demain sera meilleur ». Tu m'as dit, je ne savais pas trop comment m'y prendre. Chaque soir, je racontais ma journée, puis j'ai compris que ce n'était pas une obligation d'écrire tous les jours. Ça pouvait être tous les deux jours. Quand je me sentais mal, j'écrivais tout et n'importe quoi, jusqu'au moment où je visualisais sur la page l'origine de ce mal, jusqu'au moment où je visualisais le bruit de mon cerveau. Petit à petit, je me suis mise à assimiler la tristesse à des images de la nature, à assimiler la joie à des images de la nature. Mon écriture devenait de plus en plus poétique. J'ai tout brûlé. Voilà, donc moi ça m'a beaucoup marqué ce retour aussi, ce retour avec l'adolescence, ce retour à l'écriture viscérale et côté un peu journal intime.
Merci beaucoup pour ces partages. On peut peut-être passer au caillou dans la chaussure ?
Ouais, grave. Ben, en fait, le cahier dans la chaussure, je te disais tout à l'heure en off-key, c'est un peu comme dans les entretiens d'embauche. Je vais faire un défaut qui n'en est pas vraiment ça, parce que c'est sincère, hein, c'est vraiment un ouvrage qui me marque et qui répond à tellement de choses, même s'il n'y a que 21 personnes. En fait, à la base, moi, j'ai vu Lettre aux jeunes poétesses et j'ai eu peur en fait du manque d'inclusivité. J'ai eu peur que ce soit, en plus je voyais Chloé Delhomme en premier nom et je sais que elle est beaucoup aussi dans ses écritures de femmes sorcières puissantes, etc. Et c'est hyper précieux, mais parfois ça manque aussi un peu d'inclusivité. J'avais peur que le féminisme soit pas assez intersectionnel, et quand j'ai vu du coup la sélection d'autrices de toute culture, de toute orientation sexuelle, toute identité de genre, ça m'a rassurée. Et voilà, moi, je suis une personne trans non-binaire et du coup, j'avais peur aussi de ne pas me sentir représentée dans ces écrits-là. Et voilà, rien que la quatrième de couverture te rassure, puisque le début, c'est 21 poétesses francophones qui racontent ce qu'est écrire et être une femme ou une personne non-binaire aujourd'hui. Donc bon, ça, voilà, ça calme direct, ça rassure sur ce point-là. Et donc ce caillou dans la chaussure, au final, je me suis dit que c'était juste une manière, que je comprends, de mettre un titre un peu plus simple à comprendre, Lettre aux jeunes poétesses, mais après, dans tous les autres écrits, il y a de l'écriture inclusive, donc il n'y a pas juste poétesse, il y a poète et poétesse dans le même mot, et donc voilà, c'est juste une manière que ce soit plus clair, je pense. Et je comprends, parce que dans le grand public, il y a aussi cette peur qu'il y ait trop d'écriture inclusive et que du coup, voilà, ça soit plus difficile à lire, etc. Et donc, dans le titre, je pense que c'était intelligent aussi de ne pas avoir mis d'écriture inclusive.
En gros, tu veux dire le fait que le titre soit au féminin, ouais. Ça pouvait laisser induire que ça incluait pas les personnes trans dans leur diversité, quoi.
Ouais, non-binaire et tout, ouais, c'est ça, tout à fait. Et en fait, pas du tout. Okay. Rien que le fait qu'il y ait RERQ et plein d'autoristes trans, enfin, dans le livre, il y en a en tout cas, donc voilà.
Peut-être qu'on peut expliquer ce que c'est que le féminisme intersectionnel, parce que c'est un mot que tu as employé, peut-être pas tout le monde sait ce que ça veut dire.
Carrément, bah, c'est l'idée en fait que malheureusement, c'est rare qu'une personne ne cumule pas les potentiels lieux de discrimination et d'oppression systémique. Par exemple, tu peux être donc une personne identifiée comme femme, subir donc du sexisme, mais aussi être une personne racisée, subir donc du racisme, etc. etc., subir du validisme, subir toutes sortes d'oppressions. Et donc le féminisme intersectionnel veut vraiment prendre en considération les croisements de toutes ces oppressions comme faisant partie d'un même système et lutter contre tout ça en même temps, parce que bah, cette lutte-là, le féminisme est censé réunir toutes ces autres luttes, quoi.
Et avant de passer avec l'écho à ta propre vie, peut-être qu'on peut faire une petite interlude musicale. Je t'ai proposé aussi de trouver une musique qui te faisait écho à ce livre, Lettre aux jeunes poétesses. Qu'est-ce que tu as trouvé alors ?
Bah, tu vois, c'est un ouvrage qui m'a inspirée aussi pour écrire et un ouvrage qui m'a aussi inspirée pour saigner dans l'écriture, parce que des fois on saigne dans l'écriture. Et il y a un album qui m'a inspirée dans ce même écho-là. C'est l'album, désolée, je parle pas allemand, Traum and Existence de Compromat, qui est donc le groupe que forment Vitalik et Rebecca Warrior, la meilleure, et qui date de 2019. Et je voulais du coup commencer par la chanson Niemand, qui est un peu dans cette voilà, cet aspect organique et viscéral.
J'ai ce qu'il vous faut. Mais attention, il faudra vraiment prendre soin.
Yeah. Stein. Ich bin ein Stein unter einem Stein, unter einem Stein. Ich bewege mich so langsam, dass ich unbeweglich aussehe. Furtbach, Wildbach, Bäche von meinem Tränen. Niemand hört es, als ich schreie. 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 Niemand hört es, als ich schreie.
C'était Niemand, un titre de Compromat qui est sorti en 2019 et que Clara nous proposait d'écouter en écho avec le livre Lettres aux jeunes poétesses. Est-ce que tu as envie de réagir à ce morceau ?
Ben, ça donne de l'énergie, vous trouvez pas ? Et on a envie soit de tout casser, soit de tout brûler, soit d'écrire et de voir après quoi.
Et ça va nous faire le lien avec l'écho avec ta propre vie ?
Ouais.
Puisque c'était aussi une des propositions.
Ouais, carrément. Bah, c'est vrai que, justement, je disais que ça résonnait avec ma vie en tant que personne qui essaye d'écrire des choses. Ça résonne aussi avec les écritures qui, en gros, sont réalisées durant mes ateliers d'écriture. Je pense aussi à toutes ces personnes qui s'inscrivent et qui me disent, en fait, « Ah, mais moi, j'écris pas », et qui ont aussi cette peur de l'illégitimité, peur de se dire, se prétendre écrivaine, poétesse, écrivain, poète ou autre, et en fait, qui finalement ont arrêté l'écriture à un certain moment de leur vie, alors que souvent elles avaient justement cette écriture viscérale durant l'adolescence et voire même l'enfance. Et donc ça fait écho à toutes ces écritures-là qui sont un peu arrêtées, voire même ces destins qui ont été un peu brisés par les codes de notre société qui nous dit bah non, c'est pas un vrai métier. Si, c'est un métier, même si c'est galère d'en vivre. Et donc ça fait écho après de manière plus personnel avec l'écriture de mon livre, puisque ça fait quelques années que j'écris, enfin je dis quelques années parce que je sais plus trop quand est-ce que j'ai commencé, j'espère arrêter bientôt et accoucher de ça. Ça, c'est un livre donc que j'ai appelé au début Le Feu, puis il y a un sous-titre qui est apparu, qui s'est donc rajouté, c'est donc maintenant Le Feu ou la Patience. Et donc ça parle justement de cette intime politique, ça parle aussi de cette procrastination qui m'atteint aussi très très fort. Et cette procrastination, elle n'est pas juste de la flemme, elle vient toujours d'un problème qu'on a avec le fait d'être légitime, de se sentir à sa place et d'avoir toujours peur aussi de ce que ça va, comment ça va résonner avec les gens, de se livrer aussi parce que c'est se mettre à nu avec des écritures qui sont viscérales et aussi intimes comme ça. Et Chloé Delhomme, à la fin de son texte de sa lettre, parlait du baptême du feu, et ça m'avait marqué parce que justement c'était une période où j'avais déjà écrit mes textes le feu, et en fait je faisais que aller lire des choses sur le feu. Donc il y avait bien sûr l'ouvrage de Wendy Delorme, viendra le temps du feu, mais il y avait aussi donc une anthologie féministe de poésie réunie par Diglé qui s'appelait donc Le Feu. Et puis Chloé Delhomme à la fin disait cela: tu n'écris pas pour te divertir et il n'y a qu'écrire qui t'occupe. Ne regrette rien et viens sans peur, tu marches déjà sur des braises et bientôt viendra le baptême du feu. Et donc ça avait fait partie des mots qui avaient résonné fort fort en moi, mais il y avait aussi les mots d'une autrice que j'ai découvert dans cet ouvrage. C'était Sophie Geluca, et à la fin de sa lettre elle dit « J'ai écrit dans un monde qui brûlait, tu écriras dans un monde en cendres. Tu seras guerrière, ma sœur. » Et voilà, ça fait partie des mots et des thématiques qui m'ont boostée, quoi.
Ça me fait penser au livre « Viendra le temps du feu » de Wendy Delorme.
Oui, c'est ce que je te disais. J'avais justement lu dans un domaine plus de la fiction queer et tout. Et là, c'était aussi un moment où vraiment il y avait plein de poésie contemporaine, mais pas que, des anthologies poétique féministe qui s'organisait et s'articulait autour de la thématique du feu. Donc il y avait vraiment ce brasier-là qui était là dans plein d'endroits différents, dans des performances, dans de la littérature. Et donc on brûlait de ce même feu, quoi.
Ah, c'est le feu qu'on retrouve dans la musique de tout à l'heure aussi.
Ouais, grave.
Est-ce que tu as envie de nous lire un autre passage? Parce que tu en as lu déjà quelques-uns, mais comme il y avait l'idée de pouvoir en lire un en particulier... Est-ce que tu as envie de nous en lire un qu'on savoure bien?
Ouais, je suis chaud. Je pensais lire un de Sophie Geluca, mais au final, j'aimerais en lire un qui m'a aussi fait du bien parce qu'il est drôle aussi. Et c'est donc la dernière lettre de l'ouvrage, c'est celle qui est écrite à plusieurs mains par le collectif RERQ. C'est un collectif que j'aime vraiment beaucoup, où dedans on y retrouve notamment Wendy Delorme et Rebecca Chaillon. C'est un collectif qui écrit sur les sexualités, les corps, la salive, les nuques moites, les joggings mouillés de Cyprine, la sueur, l'attente, la langue et ses potentialités fautives et sales. Voilà, c'est leur manière de se décrire. C'est donc 6 personnes qui écrivent derrière ce collectif. Et chaque personne a plus ou moins écrit à plusieurs adresses. Donc, il y en a une qui s'adresse au RSA, il y en a une qui s'adresse au Silicon, il y en a une qui s'adresse à la 4e génération. Il y en a une à un moment qui s'adresse à sa mère, et elle m'a marquée. « Chère maman, je ne réponds plus à tes lettres depuis un an. Ce voyage-là, devenir soi-même, ressemble à un aller simple Berlin-Lisbonne dans la soute d'un Flixbus. Je garde mes larmes pour les documentaires animaliers et les comédies familiales. J'ai de la tendresse pour notre échec aujourd'hui, je me souviens. M'endormir tous les soirs sur un livre ouvert, de toutes petites mains, un tout petit cercle de lumière, les rêves de ma sœur flottant très grand autour, une garenne d'images, nous, moi, immense dans le futur et flou, les livres de cette enfance et tous les livres d'après. Comment j'ai appris à écrire en lisant, comment je me tiens à présent vivant, vivante, moi-même, dans l'écriture. Tu ne le crois peut-être pas, mais je t'aime. » Et puis après, il y a des petites lettres très mignonnes comme « Cher poil sous les aisselles, j'aimerais vous écrire un poème. » Ou encore « Cher poème », un truc un peu méta, « Hâte-toi, souffle-lui dans le cou, sous cette boucle d'oreilles pédées entre les cuisses, à travers le portail en guimauve en latex de ses rêves, guest star dans les films où Yel guette une gouine téméraire, un baiser, monte dans le roller coaster de ses premières fois. » Bon voilà, ça fait du bien aussi cette écriture-là. Et puis, cher écrivain Gwyn, tu es badass et très puissante. Tu échappes au traitement mortifère d'une littérature pour les hommes. Tu es débarrassée, vaillante, forte, en dehors du marché. Profites-en pour parfaire une littérature qui explose gentiment dans toutes les mains hétérosexuelles. Fais éclater les foyers nucléaires. Pose des petites bombes menaçantes, poétiques, vives. Et bon, cher patriarcat, des os ont agosté, t'as vu. Et encore des petites lettres comme ça jusqu'à la fin. Cher professeur qui a dit que les écrivaines queer meurent seules et obscures, lol. Et j'aimerais finir par une des petites lettres qui m'a beaucoup marquée et que j'utilise souvent aussi dans mon atelier d'écriture parce que ça parle fort. Chère santé mentale, nous deux, c'est un peu comme la fameuse chanson de Jeanne Moreau. On s'était trouvés, on s'est perdu de vue, on s'est retrouvés, on s'est reperdus. Tu me fuis, je te suis en tango mortifère, quand je croyais innocente que ces stratégies ne valaient que pour la drague au lycée. J'ai bien compris maintenant que tu ne m'appartiens pas et que je suis sans doute trop possessive avec toi. Mais avoue, lâcher prise dans ce genre de relation n'est pas si simple, malgré le yoga et les anxios. Reste encore un peu, stop. Sans toi, mon cerveau fait de la brume et c'est de la chute intérieure. Je m'accroche aux mots comme des branches qui cassent ou ploient trop souples et ça continue de dégringoler malgré tout. Il faut alors beaucoup de pages pour faire un matelas en cas d'atterrissage sévère. Alors, chers auteuristes qui ont amorti tant de mes chutes dans les enroulés de vos phrases, merci. J'ai les poils qui s'hérissent.
Ah ouais, ça donne trop envie de lire ce livre.
Franchement, je vous le conseille. Pour toutes les personnes qui écrivent, mais aussi au-delà, pour toutes les personnes qui ressentent le feu de la création en soi et qui ont du mal parfois à y aller, quoi. Parce qu'il y a tellement de freins qui nous arrêtent, ça donne de la force.
Merci beaucoup, Clara.
Merci à toi de m'avoir invitée.
On termine là-dessus, du coup. Merci d'être venue présenter Lettre aux jeunes poétesses. Et puis, à bientôt.
Oui, à bientôt.
Bisous. On termine avec Compromat de mon âme à ton âme.
Oui.
Le ciel est noir, mon ami, mais j'y vois clair et la pluie.
Der Regen wäscht uns von allen Sünden.
La vie est flamme, mon amour, et le vent souffle chaque jour.
Der Wind bläst, uns daran zu erinnern, dass wir uns lieben.
Les nuits sont longues, mon amante, comme une ivresse.
Diese Nächte sind ein paar Augenblicke der Ewigkeit.
Le long du fleuve, mon âme sœur, du haut des cimes aux profondeurs.
Der Wind bläst, uns daran zu erinnern, dass wir uns lieben. De mon âme.
Je
suis allé dessus.